France Musique. Les grands entretiens, Jean-Baptiste Urbain. Je m'appelle Emmanuel Bertrand, je suis né le 5 novembre 1973 à Firminy dans la Loire et je suis musicienne, violoncelliste.
Emmanuel Bertrand, vous avez raconté votre enfance dans la Loire, la découverte du violoncelle, dans une famille non pas de musiciens, mais avec un frère et une sœur qui, eux, l'étaient et le sont toujours. Puis Lyon, le conservatoire supérieur. Pourquoi partir ensuite à Paris se perfectionner auprès de Philippe Müller?
Alors, c'est un engagement que j'avais pris auprès de Philippe Müller lorsque j'ai choisi de rester à Lyon. En fait, j'avais passé le premier tour à Paris. Le concours d'entrée se joue en deux tours. À Paris, il y avait 3 semaines d'écart entre les deux tours. À Lyon, c'était enchaîné le jour et le lendemain. Donc, j'ai eu le premier tour à Paris. Et puis, j'ai eu les deux tours à Lyon. Et j'ai décidé de ne pas passer le deuxième tour à Paris. Et à ce moment-là, j'étais venue voir Philippe Müller. C'était ma deuxième rencontre avec lui. Il avait été tellement gentil, profond, c'est quelqu'un de profondément gentil, bienveillant. Je pense que j'ai eu vraiment beaucoup de chance de travailler avec ces deux personnes que sont Jean Deplace et Philippe Müller, qui sont extrêmement différentes, mais qui chacune m'ont apporté des choses qui aujourd'hui encore, de temps en temps, je suis à mon violoncelle et puis je réentends une phrase, je me dis « Ah, c'était ça !» et ça continue à porter des fruits. Et Philippe m'avait dit « Je comprends, reste à Lyon. Bon, » il avait aussi conscience que j'étais jeune et que ce serait un grand bouleversement que de venir à Paris. Mais lorsque tu auras fini à Lyon, viens faire un troisième cycle chez moi. Et donc, 4 ans plus tard, je suis arrivée à Paris dans la classe de Philippe Müller.
Et qu'est-ce que vous apprenez auprès de lui que vous n'aviez pas appris auprès de Jean Deplace? Il y a toute une génération de violoncellistes qui est passée auprès de Philippe Müller. On parle parfois de lui, sinon comme un gourou, ou en tout cas comme un sorcier qui a couché beaucoup de grands violoncellistes.
Alors, je peux vous assurer qu'il n'a rien ni du gourou, ni du sorcier. Mais c'était une ruche, cette classe. En même temps que moi, en troisième cycle, il y avait Jérôme Bernot, qui est maintenant professeur au Conservatoire supérieur. Il y avait Ophélie Gaillard, qui est rentrée la même année. Mais très peu de temps avant étaient sortis Xavier Philippe, Anne Gastinel. Enfin, voilà, c'est vrai que je crois qu'on peut plutôt compter les exceptions qui sont très rares de ceux qui ne sont pas passés dans sa classe. Et donc, c'était le choc était plus la confrontation avec cette grande maison dans laquelle je me perdais. Je sortais de l'école vétérinaire de Lyon, le CNSM qui est dans ces locaux anciens, avec le cloître qui fait qu'on rencontre toujours tout le monde. Et puis, l'arrivée à la Villette, le conservatoire était flambant neuf, où j'avais l'impression d'avoir bien du mal à faire des rencontres. Et c'est vrai que la bienveillance de Philippe Müller était vraiment indispensable au maintien de mon équilibre, parce que je me sentais un peu perdue, tout simplement. Mais pour revenir à plus précisément à votre question de ce que m'a apporté Philippe, il avait un enseignement beaucoup plus précis que Jean Deplace, qui justement, voilà, on était plus sur l'impression, une forme d'énergie, et puis de ne discuter que de ce qui ne fonctionne pas. J'ai sans doute appris beaucoup plus dans le détail des questions de style et de traitement instrumental en arrivant dans la classe de Philippe Müller.
la fin de ce troisième cycle, il y a un concours, il y a un bon... Comment on finit le conservatoire ?
On finit jamais vraiment le conservatoire. La preuve, j'y suis encore. Non, le troisième cycle, c'est vraiment une aide au projet. C'est ce qu'on appelle maintenant le doctorat. On peine beaucoup pour y entrer, mais ensuite, on se laisse porter. On a des aides, on a la possibilité de jouer. Et puis, un écrin idéal pour préparer des concours internationaux. Et puis, essayer de se lancer. Je pense que la conscience des nécessités d'appréhender la sortie du conservatoire a clairement changé, et heureusement, parce qu'il y a plus de 20 ans, quand on sortait du conservatoire, on n'avait pas idée de ce que c'était que s'adresser à un organisateur de concert ou à une maison de disques. Et...
Un agent,
mon Dieu, n'en parlons pas. Je me demande si on considérait que c'était un métier, en fait, parce que c'est réellement un métier, avec beaucoup d'arrière-plan. Mais ça, on finit par le comprendre avec les rencontres.
Après, c'est l'heure des concours internationaux. Quel concours d'abord vous avez passé ?
J'en ai pas passé beaucoup parce que, alors vraiment, les concours, j'aimais pas ça du tout.
Pourquoi ?
Voilà, je trouve ça complètement artificiel en fait de jouer pour un jury. Encore aujourd'hui, hein, c'est. Alors s'il y a un public et un jury, c'est déjà différent. Mais les concours où on joue vraiment pour une grande tablée de gens qui prennent des notes, je trouve ça complètement déconnecté de ce qu'on fait. Et puis, j'ai toujours eu des difficultés à rassembler le meilleur de mon énergie pour ces enjeux-là, en fait. Je crois que ça ne me motivait pas suffisamment. Donc j'ai passé les concours qu'on m'a demandé de passer. Enfin, c'était un peu le...
Le parcours obligé.
Le cahier des charges, en étant en troisième cycle, je m'étais engagée à passer un certain nombre de concours qui ont donné quelques résultats intéressants, mais qui m'ont
concours
surtout...
Concours Ostropovitch.
Oui, où on m'a prêté un violoncelle, alors, parce que j'avais toujours le violoncelle que mes parents m'avaient acheté lorsque je suis entrée à Lyon, parce que voilà, comme tout est toujours allé un peu vite, en fait, j'avais pas de violoncelle entier à moi quand je suis rentrée au conservatoire de Lyon. Je jouais un violoncelle qui m'était prêté par le conservatoire de Saint-Étienne. Donc à ce moment-là, on avait cherché un violoncelle. Et puis quand je suis arrivée dans la classe de Philippe Muller, je trouvais que ce violoncelle, il était quand même un peu limité. Je l'ai toujours aussi. Je suis incapable de me séparer de mes violoncelles, donc il est aussi quelque part dans la maison. Et je ne me sentais vraiment pas prête à passer commande à un luthier. J'étais incapable de formuler 3 phrases pour décrire un son, quelque chose dont j'aurais rêvé. Pour moi, un violoncelle, je le prenais en main, ça fonctionnait ou ça fonctionnait pas, mais si ça fonctionnait pas, je pouvais pas expliquer pourquoi. Je cherchais, j'essayais des instruments, et puis il y a eu le concours Rostropovitch, et on m'a confié ce violoncelle de Blanchard, qui était le premier violoncelle prêté par le Fonds Instrumental Français. Et là, j'ai compris effectivement qu'on pouvait faire d'autres choses avec un autre instrument, donc ça a été une étape importante.
Un instrument ancien ?
Oui, pas si ancien, il avait une bonne centaine d'années. Mais effectivement, pas un violoncelle moderne. En tout cas, un violoncelle que je pouvais jouer tout de suite. Et non pas, vous savez, quand on commande un instrument, on l'attend pendant un an. Et puis, voilà, c'est un mystère tant qu'on ne l'a pas en main. Et même une fois qu'on l'a en main, il faut longtemps pour vraiment comprendre ce qu'il a dans le ventre et comment il va évoluer. Et puis, ça a ouvert cette conscience que, effectivement, j'avais peut-être intérêt à chercher autre chose. L'idée de jouer un instrument qui n'était pas à moi, c'était très difficile, en fait. Parce que j'avais besoin de l'oublier, ce violoncelle. Et le fait de savoir que je devrais le rendre un jour, ça bloquait quelque chose. Voilà. J'arrivais pas à me l'approprier totalement. Mais ça a initié cette recherche et j'ai commencé à essayer beaucoup plus d'instruments. Jusqu'au jour où je suis arrivée chez Jean-Louis Prochasson, qui d'ailleurs n'était pas là, mais avait demandé à quelqu'un de m'ouvrir pour que je puisse récupérer un instrument qu'il avait conçu pour une violoncelliste taïwanaise qui n'était jamais revenue en fait, qui ne l'a jamais vue. Donc c'est Philippe Muller qui m'envoyait chez Jean-Louis Prochasson. Et Jean-Louis me confiait cet instrument sans même me voir. Il m'a laissé partir avec le violoncelle, comme ça, en toute confiance, ce qui était assez touchant quand même.
Donc c'était un prêt, c'était un, c'est-à-dire un essai.
Oui, c'était un essai parce qu'il cherchait à le vendre, puisqu'il l'avait conçu pour quelqu'un. En fait, les gens qui commandent un instrument aiment que l'instrument soit conçu vraiment en fonction de leurs critères. Donc si quelqu'un ne vient pas chercher l'instrument, c'est difficile de passer à la personne suivante sur la liste d'attente, parce que c'est pas les mêmes critères. Mais ça m'a permis d'essayer cet instrument-là, comme si ça avait été un violoncelle ancien. Il était déjà conçu, il avait même été joué beaucoup à Musicora. Donc,
il avait un nom
Oui, il avait un nom, c'est le Gevrey Chambertin, parce que Jean-Louis donnait à ce moment-là un nom de grand cru de Bourgogne à chacun de ses violoncelles. Et on était en 1995, et ce violoncelle, je l'ai vraiment aimé tout de suite, sans trop me rendre compte de voilà, je sentais que ça fonctionnait, que c'était bien, mais sans imaginer ce que ça allait pouvoir générer par la suite. Je l'ai montré à Philippe, je l'ai montré à quelques personnes de confiance. Tout le monde m'a dit « oui, oui, c'est bien, il te va bien » et je l'ai gardé.
Les grands entretiens d'Emmanuel Bertrand, France Musique.
De 95 à 2015, je l'ai joué exclusivement. Et je crois qu'on a grandi ensemble. Enfin, vraiment, il a évolué énormément.
Comme une feuille vierge, hein, par rapport à un instrument qui a été joué depuis deux siècles.
Alors, je n'avais pas cette expérience-là d'un très vieil instrument où on a vraiment le sentiment de mettre ses pas dans les empreintes de quelqu'un d'autre. Mais simplement, c'était plus comme une pièce de bois à sculpter, en fait. J'ai eu vraiment la sensation de sculpter le son dessus et de le sculpter au long cours, c'est-à-dire vraiment au fil des années. Et quand j'essaye d'autres instruments de Jean-Louis, je les reconnais en général, parce qu'il y a certaines caractéristiques de timbre qui sont évidentes, mais je crois que j'en ai jamais entendu un ou joué un qui ait les graves qu'ont celui-là. On s'est pas mal questionné tous les deux, Jean-Louis Prochasson et moi, sur ce phénomène, cette profondeur incroyable qu'il y a dans ces graves. Et pour en venir à la conclusion que c'était probablement dû à l'emploi des scordatures, et notamment le fait que j'ai tant joué et travaillé les strophes sur le nom de Zahreur de Dutilleux, qui donc nécessite de désaccorder les graves. On n'a pas une corde de sol mais fa dièse, et puis c'est pas do mais si bémol, un ton plus grave. Ça détend énormément l'instrument, et puis ça oblige à jouer avec peut-être encore plus de pression, en fait, pour en dégager le timbre. Et durant des années, j'ai passé des centaines d'heures sur cette partition-là. Et je crois vraiment que c'est inscrit dans l'histoire de cet instrument. Il y a quelque chose qui reste, la mémoire de l'instrument, du bois, et c'est d'ailleurs aussi ce qui est fascinant quand on joue un instrument ancien. Celui-ci a un petit peu plus de 20 ans maintenant, et je pense que ce sera pour toujours, ce sera mon violoncelle. Celui que je joue depuis 3 ans, je suis sa violoncelliste du moment. Il a quasiment 300 ans et il ne sera jamais à moi. C'est plutôt le contraire.
C'est un italien.
C'est un vieil italien, oui. Mais le Prochasson, c'est mon violoncelle.
Pardon d'être très terre à terre, Emmanuel Bertrand, Mais comment, à 23 ans, on s'achète un violoncelle? Ça a été un sacrifice ou vous aviez des moyens?
Mais alors, d'abord, un instrument moderne,
c'est moins cher.
Ça coûte vraiment pas cher par rapport à un instrument ancien. Donc, j'ai été aidée, j'ai eu des aides, j'ai eu aussi cette chance dans mon parcours d'avoir des rencontres qui me permettent d'être soutenue par une fondation ou de donner des concerts. Et ça a été nécessairement un sacrifice de la part de mes parents, bien sûr. Mais en même temps, voilà, un instrument de cette nature-là, c'est vraiment un investissement pour l'avenir. Mais en fait, c'est une leçon de vie aussi, parce que l'instrument a sa propre personnalité, mais il a aussi le devenir qu'on lui offre avec ce qu'on lui apporte, avec la manière dont on l'éduque. Là où j'ai ce sentiment qu'on a grandi ensemble, on a appris le répertoire ensemble. La première fois que j'ai travaillé certaines œuvres, c'était sa première fois aussi. Et voilà, ça a ouvert des chemins comme ça. Et ça aussi, c'est quelque chose dont je discute beaucoup avec mes élèves, de la responsabilité qu'on a d'ouvrir son instrument, de le nourrir, d'avoir un beau violoncelle et de ne pas le jouer près du chevalet, c'est un désastre, parce que le son se referme. Le rapport à la sonorité, c'est un vaste sujet de réflexion. Souvent, on a ce réflexe de vouloir jouer quelque chose de rond, de joli, là, tout de suite, pour la place où on est en tant qu'interprète. Mais c'est absolument pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est comment c'est restitué au dernier rang de la salle. Et souvent, ce qu'on entend nous-mêmes n'est pas du tout plaisant. Et même la sensation qu'on doit avoir, il y a une forme de résistance à surpasser en permanence dans le rapport au son. C'est une vraie aventure physique aussi. La vibration et la lutte, le fait d'être toujours, de s'approcher le plus possible de la limite du son avant que ça sature, que ça craque. Et c'est là que se joue une grande part de l'expressivité.
Emmanuel Bertrand, vous avez évoqué ce concours Rostropovitch, après lequel vous avez pu fréquenter un violoncelle Blanchard, hein, mm-hmm. si je ne m'abuse. Il y a eu d'autres concours également, le prix de l'Académie Maurice Ravel, un concours de musique de chambre à Tokyo également.
Mm-hmm. Oui, mais simplement par rapport au concours Rostropovitch, je pense que quand même la plus grande et belle des choses que m'ait apporté ce concours, c'était la rencontre avec Rostropovitch lui-même. Là, j'y serais allée seulement pour ça. s'il avait fallu. Parce que, voilà, Rostropovitch, c'était plus qu'un violoncelliste, c'était un symbole pour moi. J'avais sa photo dans ma chambre étant petite, parmi les premiers disques, parce que le tout premier, c'était sans doute Maréchal. Mais quand même, parmi les premiers disques qu'on m'a offerts, c'était Rostropovitch, le concerto de Dvorak. C'était le souvenir de ce concerto de Chostakovitch qu'il finissait en tenant l'archet à pleine main au grand échiquier. Voilà, c'était comme si le mythe devenait accessible tout à coup, cette rencontre.
Vous êtes parlé ?
Oui, bien sûr. Puis j'ai eu aussi, bien des années plus tard, la joie de jouer avec lui. Il était tellement généreux avec nous. Il avait vraiment cette attitude, alors à la fois un peu paternelle, hein, parce qu'évidemment, l'âge le lui permettait, mais aussi, il disait toujours « mon collègue, cher collègue », voilà, cette idée qu'il y avait un lien, qu'il y avait un rapport de famille, en fait. Et puis, il avait cette générosité aussi de donner des trucs, des tuyaux, d'expliquer les choses, et puis une énergie très intense, un enthousiasme qui faisait passer l'énergie, qui donnait vraiment l'élan d'y aller. C'est pas donné à tout le monde. Il y avait quelque chose de contagieux, en fait, dans son attitude et dans son appétit de musique.
Dans quelles circonstances, plus tard, vous avez joué ensemble ?
Alors, pour les Victoires de la musique, on lui avait rendu hommage. On était 8 à l'entourer dans les Baquianas Brasileiras. Et ça, c'est un très très beau souvenir aussi. C'était vraiment les dernières années.
Commencez-vous à donner des concerts payants, publics, vos premiers concerts ?
Alors, les premiers concerts, en tant que professionnel, entre guillemets, c'était déjà dès le début de mes études à Lyon. Très souvent, je jouais à la Cour des Loges, avec un ensemble qui s'appelait la Camerata de France. Voilà, c'est pompeux, mais j'en ai de très bons souvenirs. Et surtout, ça m'a donné l'occasion de jouer pour les premières fois et très souvent les suites de Bach en récital. Voilà. Puis après, c'est difficile de déterminer un moment précis où les choses basculent et où on commence à... En fait, on joue tout le temps et on essaye de provoquer les occasions de jouer le plus possible parce que c'est ce qui nous apprend le plus, en fait. Ça, je l'ai compris très vite, avec ou sans conscience précise et sans forcément y mettre des mots, mais que le fait de jouer, d'être confronté au public, et c'est pas confronté le bon terme, parce que je pense qu'on va tous dans le même sens et dans la même énergie au moment du concert, mais qu'au fond, c'était ce qui me faisait faire le plus de progrès. C'était peut-être plus une rencontre avec moi-même, et apprendre à dompter... des failles de concentration ou des appréhensions. Ouais. Et puis tout simplement le plaisir de jouer, d'entendre le son, d'écouter les silences. Cette sensation que rien n'égale, celle de partager quelque chose, d'être vraiment dans une écoute commune, de faire exister le temps, de le suspendre, de respirer ensemble.
Le final du trio pour flûte, violoncelle et piano en ré majeur, Bokken 15, numéro 16 de Joseph Haydn, Philippe Bernold à la flûte, Emmanuel Bertrand au violoncelle et Alexandre Tarot au piano, enregistré en 2003 par France Musique à l'auditorium du musée du Louvre. À la prise de son de ces grands entretiens d'Emmanuel Bertrand, c'était Yvan Turc, au mixage Olivier Dupré, préparation Flora Sternadel, réalisation Perrine Mingui. À demain.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.